Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André Limbouchmaï, au Katanga oriental. J'ai réfuté totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre cadre d'échange citoyen qui reçoit pour vous Jean Bosco Pouna, qui est le secrétaire général de la synergie des syndicats des enseignants et également membre de la coalition DESC. Avec lui, nous allons parler de ces états généraux qui vont se tenir, en tout cas à partir d'aujourd'hui, et qui se clôtureront donc demain, 17 juin. Voilà, donc je l'ai dit, la coalition DESC, coalition de la société civile pour la promotion et la protection des droits socio-économiques et culturels, organise sous le patronage de la CNDH, entendez par la Commission nationale des droits de l'homme, pendant deux jours, à partir d'aujourd'hui, les états généraux de la gratuité de l'éducation des bases. Objectif, relever les forces et les faiblesses de la mise en œuvre de la gratuité en RDC en vue de dégager les recommandations pour consolider et pérenniser cette importante réforme. Deux ans après le lancement de la gratuité, quel est votre constat? Vous pouvez participer à cette émission en composant les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité d'interagir avec l'ensemble des compatriotes ici au pays et à l'étranger et sur notre page Facebook ou encore sur www.radiocapi.net. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats. Vous êtes plus de 3384 à avoir été touchés par ces sujets et 1272 parmi vous l'ont partagé. Bob Landou concourt à la production de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, Jean Bosco Pouna, vous êtes avec nous sur, disons, dans ces studios. Les états généraux s'ouvrent demain.
Merci beaucoup J.R. Lungembo et merci à la Radio Capi pour l'opportunité. En effet, les états généraux de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo vont devoir s'ouvrir demain. Donc demain le 16 juin et nous allons devoir clôturer le 17 juin. Donc, c'est une véritable tribune d'expression populaire. C'est la société civile qui l'organise, donc la coalition DESC. Et là, il faut déjà dire que nous avons invité les différents acteurs qui interagissent dans le secteur. Je crois que vous l'avez dit à l'introduction de cette émission. Eh bien, nous allons devoir faire les constats, relever les faiblesses, les forces, mais cette tribune va devoir nous permettre à faire des recommandations aux autorités attitrées.
Voilà, parce que vous avez parlé des faiblesses et des forces. Commençons par les forces de cette réforme très importante pour l'éducation des bases à RDC.
Oui, si nous devons commencer
par... Parce que, vous avez déjà fait votre constat, vous, au niveau de la DESC.
Oui. Nous avons fait les constats, mais les bénéfices des états généraux que nous ouvrons demain, c'est que il faut avoir toutes les informations, parce que il y a les amis de Kisantu qui arrivent, de Matadi, de Kasangulu. Évidemment, nous avons pris l'axe Congo central, mais nous avons également ceux qui sont au niveau de Kinshasa. Et nous aurons des gestionnaires d'école, mais comme nous allons parler également des financements publics nationaux et externes, nous aurons les membres du gouvernement, c'est-à-dire les experts qui sont au niveau des ministères. Nous pensons qu'ils ne vont pas déroger à leurs obligations, mais nous aurons également les PTF, les partenaires techniques financiers que nous avons eu à rencontrer pour quelques-uns. En tout cas, ils nous ont rassurés qu'ils seront là pour nous dire du point de vue des financements, qu'est-ce qui avait été prévu et comment c'est utilisé. Mais au-delà, nous aurons également ceux qui sont sur terrain, c'est-à-dire les enseignants eux-mêmes qui vivent cette gratuité. Ils viendront pour échanger. Mais nous ne pouvons pas oublier les parents. Et donc l'ANAPECO sera là avec le président Diatezoa. Eh bien, lui également viendra nous partager l'expérience de cette gratuité. Alors, parmi les
Avez-vous
forces...
Avez-vous pensé à faire participer également l'APEC?
Oui.
Les parents oui. catholiques.
Les parents catholiques, oui. Ils ont eu une autre invitation. Eh bien, si demain ils ne viennent pas, je crois que ça sera une mauvaise chose. Nous avons
parce que ce
pensé.
Sont eux qui sont concernés surtout. Hein,
ils
parce
sont.
Que la gratuité a connu quand même des obstacles. Il faut les dire à un moment. C'est parce que les catholiques avaient du mal à vivre avec ces manques, disons le déficit enregistré au niveau du pouvoir d'achat. Par exemple, des enseignants catholiques qui percevaient une prime qui était quand même très considérable.
Oui, vous avez raison et je crois que la PEC, nous souhaiterons vraiment qu'il soit là, qu'elle soit là, cette association, parce que comme vous venez de le dire, parmi les obstacles, il y a véritablement les comportements des gestionnaires catholiques, des gestionnaires qui ne nous permettent pas, qui ne facilitent pas la tâche sur le terrain. Donc voilà les différents partenaires qui vont devoir assister à ces premiers états généraux de l'éducation. Et nous pensons que tous les deux ans...
Alors, si je comprends bien, les états généraux... les axes des débats, c'est sur ces quatre points-là, la gestion des écoles, les finances publiques nationales et extérieures,
oui.
Les PTF, la question des partenaires, quelle a été exactement leur participation,
et oui.
comment ces frais ont été utilisés, la contribution des PTF. Alors, les enseignants eux-mêmes, comment ils trouvent la gratuité? Parce qu'on semble-t-il qu'il y a un nombre important qui s'est ajouté au niveau des écoles, mais en principe, les éducateurs ne peuvent pas prendre en charge dans une classe plus de 40 élèves, et nous avons vu dans certaines écoles où il y a 70 ou 80 même élèves dans la classe des 7e et 8e. Et enfin, les partenariats avec les associations qui, au fait, gèrent les parents, qui payent, qui contribuent aujourd'hui. Donc voilà. Donc les quatre thématiques seront abordées là-dessus. Mais entre-temps, quel est le constat que vous avez fait au niveau des gestions des écoles aujourd'hui?
Oui,
deux ans après.
Oui, merci beaucoup. Deux ans après, la situation est quand même difficile. La situation est quand même difficile. Mais il ne faut pas oublier que parmi les forces, la gratuité elle-même, l'application même la mise en œuvre de la gratuité, nous pensons au niveau de la société civile que c'est déjà une véritable force. Parce que lorsque le président de la République prend le courage politique de pouvoir s'y risquer, parce que c'était quand même un risque, pour que les écoles soient financées par l'État et les partenaires en lieu et place des parents, je crois que c'est un point positif. Mais n'oublions pas que c'était une véritable demande sociale, c'est-à-dire que la demande est venue de notre société pour que finalement les parents qui ont pris en charge les enseignants pendant 27 ans puissent véritablement se reposer. Parce que même lorsque les parents prenaient en charge les enseignants, eh bien le système n'était pas amélioré. Nous déplorions toujours la baisse criante du niveau de l'enseignement. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il est temps de pouvoir faire cette évaluation, faire ces états généraux et en toute franchise, de bonne foi, nous pensons que ces états généraux vont nous permettre à pouvoir dégager les recommandations. Alors, les constats sur terrain, les enseignants qui vivent la gratuité au quotidien, il faut déjà dire que la majorité d'enseignants, je vais parler de la majorité d'enseignants...
Les classes sont surpeuplées, les enseignants n'arrivent
oui,
plus
mais,
à...
Oui, mais les enseignants, dans leur grande majorité, ont été avaient applaudi l'arrivée de la gratuité. Bon, vous parlez du problème de surpeuplement, surpopulation, des effectifs pléthoriques dans les classes. C'est vrai que ça donne un travail de plus à l'enseignant. Et si l'enseignant n'est pas très bien motivé, eh bien, c'est un candidat à la mort. Ça, c'est tout à fait évident. Mais ce qui est vrai, et c'est l'important de l'une des thématiques...
Parce que les infrastructures n'ont pas suivi. Hein,
tout
les
à
infrastructures
fait.
Scolaires n'ont
tout
pas suivi.
Tout à fait. L'une des thématiques...
Et là, ça relance même les débats sur le projet Matata Ponyo qui est la construction de 1000 écoles dans des provinces.
Mais bien dommage.
Il faut évaluer cette question également.
Il faut absolument que cette question soit évaluée parce que les projets 1000 écoles pour lesquels le gouvernement a déboursé beaucoup d'argent, ce projet n'a pas fonctionné. Or, ces projets auraient dû résorber le flux que nous avons aujourd'hui dû à la gratuité de l'enseignement. Donc, il y a une thématique qui est réservée à faire une certaine évaluation de la table ronde qui s'était tenue avant le lancement de la gratuité. Parce qu'il y a
Vous voulez parler de table ronde de Bibois?
Non. La table ronde qui s'était tenue ici au Grand Hôtel, c'était en 2019, au moment où on lançait la gratuité. Alors, la table ronde avait chiffré ce que coûtait la gratuité. Hein, c'était autour d'1,5 milliard l'année. Et la table ronde a fait des recommandations sur l'importance de pouvoir se lancer dans la construction des infrastructures. Parce que plus de 4 millions d'enfants qu'on a récupérés, il faut absolument que nous ayons des nouvelles infrastructures pour que les classes soient désengorgées. Pour respecter le ratio, il est hors de question de dire qu'un élève, qu'un enseignant doit avoir 80 élèves. Parce que la gratuité doit rimer avec la qualité de l'enseignement.
Tout à fait.
Alors, JR, il faut rappeler ici que l'éducation est un droit humain fondamental. Et donc, de ce point de vue, la jouissance de ce droit à l'éducation permet que l'homme, que la personne puisse jouir des autres droits. Parce qu'il aura compris et ça va lui permettre de
pouvoir... Donc, ce serait une occasion pour vous également de revisiter les cadres juridiques.
Mais bien
sûr. Parce qu'il faut interpréter, il faut lire, il faut rappeler à ceux qui sont acteurs principaux dans la mise en œuvre de la gratuité, de pouvoir bien comprendre, bien discerner les textes qui parlent de cette éducation des bases.
Oui, mais vous avez raison. Donc, d'ailleurs, d'entrée de jeu, il y aura une thématique qui va aborder cette question du droit à l'éducation. Et là, naturellement, on reviendra sur la loi mère, la loi fondamentale qui est la Constitution. Au-delà de la loi fondamentale, vous avez la loi cadre de l'éducation. Donc, et puis, nous allons essayer de voir, visiter les différents instruments juridiques internationaux, notamment l'ODD 4, éducation à l'horizon 2030. Nous allons plancher sur ça pour que les recommandations qui seront faites en termes d'infrastructures. Qu'est-ce que nous demandons au gouvernement pendant les 2 ans qui vont venir? Vous comprenez quelle est la stratégie que nous voulons prendre en termes de programmes, de contenu d'enseignement? Eh bien, en 2000, vous avez suivi dernièrement lorsque les présidents fustigent les niveaux des enseignants, les niveaux de l'enseignement. Alors, nous, en tant qu'acteurs, en tant que professionnels de Serail, nous ne pouvons pas ne pas entendre ces cris de détresse du chef de l'État. Parce que lorsque...
Mais est-ce que ces cris de détresse ne constituent-ils pas un aveu d'échec déjà de la mise en œuvre de la gratuité?
Bon,
peut-être dans l'idée du chef de l'État, c'était réellement améliorer les conditions de travail, la qualité de l'enseignement, mais bon, là, on n'est pas au résultat.
On n'est pas au résultat. Je crois qu'il a raison d'une part, mais d'autre part, vous savez que l'éducation nécessite beaucoup de moyens. Il y a beaucoup de besoins, il y a des besoins basiques. Lorsque vous ne mettez pas un financement, un budget conséquent, eh bien, nous allons déplorer ce qui est en train d'être...
Parce que les bruits qui ont couru tout autour de la contribution des partenaires techniques financiers, est-ce que c'était réellement le cas? Parce que 1 milliard, vous l'avez évalué, la gratuité,
oui.
Et quelle était la part des partenaires? Est-ce qu'ils avaient vraiment versé des bousser cet argent décaissé.
Bon, ben, mais la Banque mondiale, par exemple, est invitée aux assises de demain.
Parce que la Banque mondiale avait retiré son argent en disant qu'il y avait ce soupçon de corruption.
Oui, après le soupçon de détournement, la Banque mondiale qui accompagne la République démocratique du Congo. Déjà, il faut dire que l'aide au développement ne va pas devoir développer le système éducatif congolais. Parce que lorsqu'on vous parle de 900 millions, nous avons chiffré 1,5 milliard, c'est-à-dire chaque année, vous comprenez que la principale ressource de l'éducation, c'est l'État congolais. C'est lui qui est le dispensateur des moyens. Et donc, l'aide qui arrive, c'est juste, ça vient à la rescousse pour donner un certain tonus à notre éducation. Mais c'est de l'aide qui doit être utilisée.
Mais là, on a une impression que la part du partenaire, le fait que cela ne soit pas arrivé, ça a tout capoté.
Oui, ça a posé beaucoup de problèmes, mais aujourd'hui, il est difficile de dire que tout a capoté. Parce que la gratuité, elle est là. Lorsque vous prenez la constitution de la République, notre constitution, vous allez bien vous rendre compte que pour l'école primaire, jusqu'aujourd'hui, eh bien, nous tenons encore. Mais, malheureusement...
7e et 8e, ils ont déjà repris. Hein,
7e et 8e.
Chez les catholiques, on paye, même chez l'État.
Non, mais c'est bien dommage.
7e et 8e.
C'est bien dommage.
7e et 8e, les gens payent.
C'est bien dommage.
Nous, les parents, nous payons. Donc, c'est ça la réalité sur le terrain.
C'est
les
une réalité. Voilà pourquoi nous convoquons les états généraux de l'éducation, parce que il faut qu'on corrige. Parce que si on ne corrige pas en 2023, c'est-à-dire l'année scolaire prochaine, nous aurons beaucoup plus de problèmes. 2022-2023, nous aurons beaucoup plus de problèmes. C'est pourquoi, en tant qu'acteurs avisés, nous disons, les états généraux
discutons,
doivent se tenir.
Parlons.
Discutons. Parlons, Le ministre actuel a fait le recadrage malheureux de la gratuité. En faisant le recadrage, eh bien, on est rentré dans le système de prise en charge des enseignants par les parents. Vous venez de parler de 7e, 8e. C'est le recadrage qui a occasionné cette reprise, cette résurgence de la prise en charge des enseignants par les parents. Et vous savez, pour les gestionnaires, il y en a aussi qui sont qui ne veulent pas absolument que...
Voilà, on va y revenir... On va revenir à long et large sur cette question des gestion des écoles, surtout des conventionnés. Il y a eu vraiment des débats autour de ça. Et comment on a préféré revenir encore à la prise en charge des parents. Qu'est-ce qu'il y a eu comme difficulté? Vous êtes là en ligne. Vous avez souhaité intervenir dans cette émission. Nous rappelons à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent également contribuer dans cette émission en composant les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69.
Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de votre interview.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas bien travaillé.
Les intouchables, dans ces pays, n'existaient pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h. Aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci de choisir Radio Capi pour vous informer et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Kalo Kalonji, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur J.R. et bonjour à votre invité et aux auditeurs de la Radio de la Paix.
Dans votre message, vous avez salué l'organisation des états généraux de la gratuité de l'éducation des bases dans notre pays et vous demandez à ce que tout le monde puisse être attentionné par rapport aux objectifs que poursuivent ces états généraux.
Effectivement, monsieur J.R., je commence d'abord par louer les initiateurs parce que vous savez, quand on évolue à un moment là, faut toujours faire
Il faut s'arrêter faire une évaluation.
Parce que les organisations humaines demandent toujours à chaque fois de venir et commencer d'abord à voir les points forts et les points faibles. C'est pourquoi j'ai loué d'abord. Mais je dois vous dire que la gratuité de l'enseignement n'est pas une œuvre d'un individu. Ça, c'est consacré par notre constitution. Pourquoi je l'ai dit? Parce que on parle de la gratuité aujourd'hui comme si la gratuité vient de voir lieu aujourd'hui. Non, c'était quelque chose qui devrait être fait, mais on n'a pas fait, effectivement. Mais je loue le président de la ville qui a osé. Parce que vous savez, oser pendant cet environnement, dans cet environnement où les acteurs qui profitaient de ce que les parents donnaient pour l'enseignement, les enseignements plutôt de leurs enfants, en tout cas, ce n'était pas une chose facile. C'est pourquoi je les loue, il faut toujours les voler. Parce que dans notre langue, on dit aussi, mieux vaut avoir les dents pourries que d'en manger. Ça signifie que je peux avoir des dents, même si c'est pourri, mais que ça va m'aider quand même à broyer quand même quelque chose.
Alors, quelles sont les forces, selon vous, les forces de cette gratuité? Parce que vous avez salué les états généraux, vous avez loué l'initiateur de ce grand projet, de cette grande réforme, qui n'est autre que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, quelles sont les forces de cette gratuité, selon vous?
Monsieur Gilles, vous savez aujourd'hui combien d'enfants fréquentent l'école? Moi, dans mon quartier, je vous dis, il y a eu des parents qui payaient seulement l'argent pour leurs enfants, seulement 2 mois.
Mais les classes sont pléthoriques. Les classes sont pléthoriques. Un enseignant, par rapport au ratio, ne peut pas enseigner plus de 80.
Non, monsieur Gilles, ça c'est parmi les faiblesses. Nous connaissons que les problèmes des infrastructures posent aussi problème. Mais néanmoins, parce que je vous dis encore une chose, vous savez que le niveau de l'enseignement n'est pas dit parce que les classes sont surpeuplées, non. Mais je vous dis, la relève des enseignants au Congo pose problème. J'insiste, la relève. Les enseignants qui nous ont enseigné, nous, quand ils nous apprenaient quelque chose, c'est différent. Aujourd'hui, d'abord, l'enseignant, c'est lui-même le problème devant les élèves, monsieur J.R. Aujourd'hui, vous savez que les gens ont abandonné d'emprunter vraiment la pédagogie, voyant que la pédagogie est négligée. Maintenant, celle-là qui essaye de le faire, pour le moment, leur niveau pose problème. C'est la relève aussi de nos enseignants qui pose problème, non seulement parce que les classes sont pléthoriques, non, mais c'est gère. Retenons seulement que Ce qui s'est fait, acceptons. Ne soyons pas les Congolais qui aujourd'hui refusent tout. Dire non, en tout cas, c'est non, non. Écoutez, la gratuité, c'est la constitution. Appuyons ce qu'on a fait, ce qui n'est pas fait. Cherchons à améliorer pour que les enfants puissent étudier dans les bonnes conditions, messieurs Gilles. C'est ma contribution. J'aimerais voir. Dans les états généraux, on soulève des problèmes.
Quels sont les problèmes? Quel est le constat que vous avez fait? Que vous aimeriez que cela soit discuté au niveau des états généraux? Et c'est une forme pour vous, hein, de proposer des recommandations.
Mais monsieur Gier, vous avez cité, quand vous parlez avec votre invité, vous savez que vous avez rappelé pour l'église catholique. Mmh. Vous savez que l'église catholique, bien sûr, elle nous a aidés. Mais vous savez que si l'église catholique s'opposait aujourd'hui, c'est pourquoi on doit appeler tous les acteurs qui sont impliqués plutôt dans cette affaire de la gratuité. Que ces gens-là se parlent franchement, qu'ils se parlent réellement, que voilà, ici nous avons des problèmes, on peut évoluer comme ça. Si on exclut d'autres acteurs, monsieur Gier, je vous assure, on va toujours combattre cette gratuité au point où les gens vont vouloir que les enfants restent à la maison pour leur profit. Moi, mon souci ici, qui se parle au niveau des salaires des enseignants. Mmh. Évitons les histoires des zones salariales, monsieur Gier. C'est lui qui m'a enseigné, moi, qui
est... La question du salaire, la question des infrastructures et scolaires et quoi encore?
Parce que tu réussis, moi, je vous dis une chose. Voilà ce que j'avais proposé dans ma province. Nos gouverneurs à nous, évitons d'abord le pouvoir central. Est-ce qu'un gouverneur, pendant une année budgétaire, ne peut pas construire une école, par exemple, de 6 portes? Moi, je me dis, une école de 6 portes dans chaque territoire.
Et d'ailleurs, c'est la thématique que nous allons aborder demain sur les dettes. Contacté par les provinces,
et pour quel objectif et pourquoi ils n'ont pas de garantie de l'État. Il y a des lois qui donnent quand même des prérogatives, comment on peut les passer. En tout cas, je suis là, j'attends cette
Merci
thématique-là,
beaucoup.
Nous allons débattre, M. Gilles.
Merci beaucoup, Kalo Kalonji, d'avoir accepté d'intervenir et d'ouvrir les débats. Alors, Peter, vous êtes avec nous. Bonjour, Peter.
Bonjour, Gilles, bonjour à l'invité. Je salue tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre contribution à cet échange citoyen?
Oui, merci M. Gilles pour nous avoir associés à ce débat. Je pense que l'invité a épinglé, a donné la situation globale de l'évolution de l'enseignement, surtout primaire, parce que nous parlons de la gratuité. Kalo aussi a évoqué quelques éléments. Les faiblesses, c'est que le premier avantage que moi j'ai eu à noter depuis 2 ans qu'on a eu à instaurer la gratuité de l'enseignement, c'est d'abord la récupération de tous les enfants qui n'avaient pas accès à l'éducation. Mmh. Alors que l'éducation de base, selon la Constitution, elle est vraiment obligatoire.
Donc alors, on a atteint l'objectif de l'éducation pour tous.
Voilà. Donc l'avantage de la gratuité, c'est celui-là. Mais au niveau de cette gratuité, il y a maintenant des problèmes. Et le problème, M. Gier, moi je suis enseignant depuis 2016 que j'ai tenu la CRE. Mmh. Et je vous ai même annoncé ma démission quand je suis arrivé chez Akin. J'ai enseigné dans des écoles publiques, j'ai enseigné dans des écoles privées, voire même géré même certaines écoles privées. Mais le problème majeur, M. Gilles, c'est depuis 2016 que j'ai commencé à enseigner, que j'ai constaté qu'il y a toujours des problèmes dans l'enseignement. Le premier problème, c'est d'abord les documents. Mm-hmm. Vous allez dans toutes les écoles, vraiment, les enseignants se débrouillent. Même quand aujourd'hui, le chef de l'État a décrit le niveau des enseignants. Mais M. Gilles, vous verrez un enseignant qui vient avec ses archives de longtemps, mm-hmm. alors que... Aucune école n'a les documents. Beaucoup d'écoles n'ont pas de documents. D'abord, pouvant permettre aux enseignants de bien transmettre leurs leçons, de préparer les leçons. Ça, c'est le premier problème qu'il faut résoudre au niveau des états généraux. Moi-même, en tant qu'enseignant, j'ai amené des recherches pour proposer 3 ouvrages. Le premier ouvrage concernait la dissertation. Vu ce qui se passe avec les finalistes en 6e, j'ai fait un constat selon lequel, dès que les enfants arrivent 1 mois de la passation des examens de dissertation, il se débrouille, cherchant les enseignants de français. J'ai même engagé des débats avec beaucoup d'enseignants de français là-dessus. Et même des enseignants de français se contredisent entre eux-mêmes. Et moi-même, dans mes recherches, j'ai proposé à ceux qui aient un document officiel venant du ministère, pouvant permettre aux enseignants de français de bien transmettre la dissertation. Mm-hmm. J'ai pris encore l'observation liée au niveau de la rédaction, la correspondance. Mm-hmm. Vous allez constater que, M. Gilles, les enfants qui finissent dans les options telles que scientifiques, maths, et tout, ainsi de suite, en dehors de ceux qui font la commerciale, qu'on apprend comment rédiger une lettre, M. mais les autres là ne savent pas. Jusqu'à terminer les humanités, ils ne savent pas écrire une lettre de demande.
Donc vous voulez qu'un débat soit discuté, donc fait au niveau du contenu même de la matière, sur les matières à donner.
Effectivement, il y a un problème. Il y a aussi, nous avons les programmes nationaux qui nous ont proposés par le ministère. Mais vous verrez qu'il y a les programmes nationaux, et même quand ils posent même les examens d'État, vous verrez qu'ils se désorientent du programme. Il pose autre chose qui n'est pas dans le programme. Donc il faut une
première faiblesse.
C'est basé sur
cette histoire. C'est vrai qu'il y a la gratuité, mais on n'a pas songé à outiller l'enseignant des matériels pour lui permettre de faire son travail et mener un travail de qualité.
Effectivement. Deuxième problème qu'il faut nécessairement débattre, c'est en termes des infrastructures. Vraiment, nous avons des écoles où les enfants, Dieu même l'avait, donc par terre. Donc je pense qu'avec l'initiative de l'école sans banc, c'est déjà un grand pas. Qu'il fallait résoudre d'avance. Et également aussi de la recherche. Les enseignants ne font pas de recherche, mais
il n'y a même pas de bibliothèque à l'école.
Ils n'ont pas de bibliothèque de l'école, il n'y a rien. Merci également beaucoup. Aussi, sur le plan pédagogique, les gestionnaires des écoles, ils visent que l'argent, au lieu même du travail. Vous verrez un préfet qui arrive tard à l'école, il sort avant, tout ça. Il n'y a pas un contrôle pédagogique.
En face, dans
et un contrôle aussi administratif. Dans des écoles.
Merci
Je pense
beaucoup.
Que les états généraux doivent vraiment étudier
se
tous les paramètres possibles pour que les écoles puissent avoir
changer,
les écoles puissent arriver à atteindre une
narratif.
Qualité de l'enseignement voulu par le peuple congolais.
Merci beaucoup Peter. On va prendre Maître Edmond. Maître Edmond, vous êtes en Bandaka. Bonjour Maître Edmond. Maître Edmond, vous êtes avec nous? Voilà, la ligne de Maître Edmond a des petits soucis. Alors on va prendre Simon Tiloulou qui est à Matadi. Simon Tiloulou, je crois on va nous le passer, Simon.
Oui, bonjour.
Simon, vous êtes avec nous?
Oui, je suis.
Vous avez la parole, Simon. Quelle est votre contribution, Simon?
Voilà, je pense que nous commençons à faire savoir à tout le monde, sinon à rappeler que l'éducation est d'abord un droit inaliénable à tout enfant de la République. Et nous saluons également l'initiative de la société civile EDESC d'organiser les états généraux de la gratuité au regard de la société civile. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. La société civile, en faisant ça, ça signifie qu'elle participe à l'organisation et au développement de l'enseignement. Maintenant, il va falloir aussi que le gouvernement organise de telles assises de son côté aussi, pour voir aussi les recommandations qui proviendront de la société civile, afin que tous nous puissions acheminer au bonheur de l'éducation et à la qualité de l'éducation de l'enfant. Alors, je pense que la gratuité a des problèmes sérieux aujourd'hui. Le mal, c'est que les faits induits de la gratuité n'ont pas été pris en compte par les pouvoirs publics. Parce que si vous suivez l'idéal du président de la République démocratique du Congo, sur le concept de la gratuité, en tout cas, il voulait assez que nous puissions revenir vers les années avant 80, où la gratuité partait de l'école primaire jusqu'à l'université. C'était ça l'idéal. C'est pourquoi d'ailleurs il a commencé à faire d'abord l'exigence de la Constitution qui demande à ce que l'enseignement primaire soit gratuit. Et la lettre sur la gratuité du ministre de l'époque avait demandé à ce que pour continuer, parce que l'idéal c'est d'arriver même à l'université. Et on a commencé à réduire de manière drastique les frais payés par les parents au niveau du secondaire, ce qui a provoqué un engouement et l'augmentation exponentielle des nombres d'apprenants, 4 millions passés, qui étaient hors circuit scolaire. Maintenant, avant les années 80, ça se vivait, ce n'est pas du nouveau, et nous saluons le courage du président de la République qui voulait faire revenir ce que les institutions de Bretton Woods avant 80 nous ont exigé et qui nous ont conduit à des conséquences très graves aujourd'hui. Alors, les vrais problèmes, la non prise en compte des faits induits de la gratuité, parce que on devrait à cette époque payer les nouvelles unités et tous les non payés. Et c'était 250 000 qu'on devrait ajouter pour les deuxième palier, et puis 189 000 pour le troisième palier. Ceci aiderait en fait que ce que l'enseignant gagnait entre par les parents devrait être comblé par cette prise en charge de la gratuité. Mais ça n'a pas été fait. La construction des nouvelles écoles...
Le fait que cela ne soit pas fait, raison pour laquelle les catholiques ont demandé à ce qu'on puisse reprendre la prise en charge par les parents, parce que c'était vraiment un manque à gagner dans le pouvoir d'achat de leurs enseignants.
Oui, c'est parmi les méandres, mais il ne faut pas directement arriver là, parce que l'Église catholique et même nous-mêmes au Sénégal, nous avons lutté tous ensemble pour que la gratuité soit effective, parce que les conséquences dans la société étaient prises.
Alors, comment commentez-vous, parce que la mise en œuvre de la gratuité a connu le management de deux, en tout cas jusque-là, en deux ans, de deux ministres, pour ne pas citer Bakunga, qui a précédé Tony Mwamba. Alors, comment tu as jugé les managements des uns et des autres?
Oui, les managements de Willy Bakunga, parce que était le premier, Willy Bakunga était le premier à appliquer cette disposition voulue par tout le monde. Et on espérait que, comme on a commencé là, le gouvernement, le pouvoir public devrait prendre les choses en main pour continuer. Et c'est pourquoi tout le monde a apprécié. Et nous sommes arrivés à l'actuel ministre Tony Mwamba. Alors lui sera bité par un problème sérieux de la non prise en compte des faits induits de la gratuité. La pression a commencé du côté des enseignants, parce que déjà deux ans, nous nous sommes sacrifiés corps et âme.
Parce que la même pression, nous avons, on l'a encore observé avec Tony Mwamba. Donc le problème, c'était pas le problème d'homme, c'était plutôt le problème d'un système qui était là.
Oui, c'est un problème de système, parce que Willy Bakunga, c'est bon, mais il y a eu aussi des problèmes qu'il a créés, qui sont aujourd'hui de véritables problèmes, en engageant des enseignants sans forme, augmentant même le changement des structures dans des sous-divisions. Il a multiplié des sous-divisions qui a multiplié le nombre d'enseignants et le nombre de personnels de l'enseignement.
Avez-vous une idée sur ce que réellement l'État congolais a mis dans cette mise en œuvre de la gratuité?
Oui, d'abord,
il avait donné combien à Willy Bakunga?
Encourageant. Il a payé les frais de fonctionnement qui ont remplacé les frais des parents à l'école primaire. Nous avons 50 000 écoles primaires. Et on a donné aux classes, aux écoles qui ont plus de 20 classes, 600 000, et qui ont moins de 20 classes, 400 000. Et un peu moins ceux qui avaient moins de
400 000 francs congolais.
Alors,
ou 400 000 dollars. 400 000 dollars ou bien 400 000 francs congolais.
Alors, on a payé en janvier 132 614 enseignants non payés, parce que le nombre était exactement selon les travaux que les secrétaires généraux du Sénégal, Jean Bosco Pouna, ont fait. On a dénombré 187 000 enseignants qui devraient être payés. Mais à l'époque de Willy Bakunga, avec son parti politique, on a multiplié que nous sommes arrivés voilà. Dans les 300 quelques. Alors aujourd'hui, on a payé, et puis on a payé 58 000 enseignants aussi du primaire. Maintenant, les 58 000 là, ils se confondent. Willy Bakunga, les 58 000, n'a pas payé les vrais enseignants, les vrais NP. Il avait pris les membres des partis politiques.
Alors, Tony Mwamba a payé des vrais enseignants.
Oui, les 180... Non, c'était à l'époque de Willy Bakunga.
Non, mais je parle maintenant. Willy Bakunga n'est plus là, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi la mise en œuvre est balcon de l'aile?
Oui, mais parce que les exigences, la gratuité, la prise en charge, veut dire, quand on parle de la gratuité, veut dire l'État prend en charge tout ce que les parents donnaient. Nous avons des écoles à forte motivation à Kinshasa. C'est vrai qu'ils se sont sacrifiés pendant une année, deux ans, les écoles à forte motivation commençaient à toucher les salaires comme tout le monde, alors créant un gap considérable entre ce qu'ils avaient et ce qu'ils ont. Touchés, voilà. Avec la vie sociale d'aujourd'hui,
ça provoquait
un problème au niveau des enseignants qui ont commencé à réclamer ce qu'ils avaient
voilà, merci.
Avant.
Merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup, Simon. On ne sera pas aller plus loin parce que notre invité doit également prendre la parole. Alors, Jean Bosco Pouna, c'est vrai, vous venez de suivre cette série des auditeurs. Je les ai laissés quand même s'exprimer pour vous aider à vous faire une idée hein, sur ce que pense la population, ce que la population attendra de recommandations qui sortiront de ces états généraux. Comment réagissez-vous?
Merci beaucoup, JR. J'ai dit merci à tous les intervenants. J'ai dit à Kalo, d'abord, merci de félicitations que vous faites à notre coalition, à la coalition DESC. Ce qui a retenu mon attention lorsque vous avez pris la parole, c'est les problèmes liés à la formation, la relève, la formation des enseignants. Donc je parie que la question relative à la formation des enseignants sera abordée lors de ces échanges, lors de ces états généraux. Et puis vous avez évoqué les problèmes d'infrastructures. Là également, il faut dire que vous avez raison lorsque vous abordez la question des infrastructures. En tout cas, les états généraux reviendront là-dessus. Vous avez également abordé la question des salaires, des zones salariales. Je pense que pour que la gratuité ait un contenu, il faut absolument, et c'est pourquoi nous parlons d'ailleurs déjà au mois de juin, parce que la rentrée prochaine, c'est en septembre. C'est maintenant que nous allons déjà...
Parce qu'il faut nous éviter les spectacles qu'on a
mais
l'habitude
d'observer. Mais il faut éviter cela.
Les enseignants en grève au mois de septembre, c'est comme ça devient un fonds de commerce.
Non, mais c'est vraiment dramatique pour notre jeunesse. Parce que lorsque vous avez 2 mois de grève et que le calendrier n'a pas bougé, je crois que quelque part, ce sont des connaissances tronquées. Mmh. Et donc, nous ne pouvons pas être fiers de ça. L'année prochaine, il faut absolument... C'est une année électorale, je parie aussi. Donc, il faut absolument que nous évitions ces différentes grèves intempestives au début de l'année, mais pour éviter cela, il faut absolument que le gouvernement, par les ministres des tutelles, puisse prendre les choses à bras-le-corps et à temps. C'est pourquoi nous tenons les états généraux déjà au mois de juin. Alors, il y a Peter qui est revenu sur des problèmes cruciaux, et il a raison. Mmh. Il a parlé, par exemple, des supports pédagogiques, donc des documents pédagogiques. En effet, lorsqu'il n'y a pas un effort qui est mis dans ce sens-là, l'enseignant n'a pas de manuel, il n'a pas de documents pédagogiques, eh bien, il va tenir des conférences devant les élèves. Or, l'enseignement, ce n'est pas cela. Donc, je crois qu'il a évoqué un problème. Il a parlé de la recherche. Je crois que nos écoles n'ont pas de bibliothèque. L'enseignant lui-même n'a pas de moyens pour aller faire des recherches. Je crois que les états généraux...
L'enseignement n'est pas numérisé.
Mais
difficile
voilà.
D'accéder à l'Internet.
Voilà.
Pour, au fait, se mettre à jour. Donc, tout ça,
c'est vraiment des problèmes. Il est revenu également sur des gestionnaires qui passent leur temps simplement à chercher des...
Nous avons même, je ne vous coupe pas la parole, on a reçu dans ces studios une dame qui a amené un projet sur la numérisation de l'enseignement. Mais bon, dommage pour elle, elle a dit sur les antennes des radios Capi ici, que disons, l'État lui demandait encore quels sont les moyens qu'il a amenés pour numériser.
Mais voilà.
Au lieu de mettre les moyens,
voilà
donc c'est compliqué.
Non, mais il faut déjà dire qu'il ne peut pas se décourager. Nous tenons les états généraux avec les moyens, avec des cotisations. Vous pouvez vous imaginer, si vous attendez l'État, vous ne ferez rien. Je crois que de tels projets, si nous nous mettons ensemble en tant que peuple, nous pouvons
doter
commencer...
des enseignants, des ordinateurs.
Des ordinateurs.
On peut prendre un partenariat avec la banque pour que la banque puisse couper à la source.
Donc, vraiment, c'est faisable.
Que ça, c'est faisable.
Vraiment, dit, JF, c'est faisable.
Les ordinateurs, on donne. Et bon, les wifi à l'école, les enseignants peuvent... Bon, d'ailleurs, pour ne pas relancer encore les débats sur les RAM qui devaient donner les internets aux universités. Mais voilà, donc vous avez la parole.
Oui, mais il y a beaucoup d'argent qui part comme ça, l'enseignement à distance. On a pris combien à chaque enfant? Donc vous comprenez que tout cet argent pouvait bien servir à l'éducation, mais nous avons un mauvais management au niveau des ministères. Vous venez de suivre Simon Tiloulou qui est revenu sur les effets induits de la gratuité. Et je pense que Simon Tiloulou est en route pour venir participer aux états généraux parce que c'est lui qui va représenter
le
Congo central. Ben, donc les effets induits... par la gratuité, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été prises en compte par l'État. Aujourd'hui,
parlons des frais de fonctionnement qui sont maigres tellement que...
Vraiment
voilà, vous donnez 90 000 francs à une école primaire,
minable.
Mais ils vont faire
minable.
Quoi? Les intrants, les créés, les supports pédagogiques, comme vous
minable.
L'avez dit.
Mais là où c'est dramatique, sur les listings, vous voyez 200 000 francs de frais de fonctionnement, après les recadrages de Mbola Lodge, le ministre n'a pas véritablement joué son rôle. Parce
ça, c'est Tony Mwaba.
Mais Tony Mwaba, je crois que c'est un mauvais cheval.
Donc le management qu'on a reproché à Willy Bakonga, c'est le même management qui continue.
Non, ça continue parce que lorsque Simon Tiloulou parle de NEP, des nouvelles unités qu'il est allé recruter dans son parti politique. Mais aujourd'hui, mais c'est encore patent, c'est criant. Parce que parmi les, on nous parle de plus de 70 000 nouvelles unités. Mais vous allez dans les écoles, les enseignants qui ont été contrôlés ne sont pas pris en compte. Comment comprendre cela? Et pourtant, on devrait résorber tous les enseignants NU.
Donc une on a déshabillé Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre.
Tout à fait. Et je crois que notre société regarde, et tous les enseignants regardent, on n'a pas véritablement
donc rendez-vous évolué. Aux états généraux pour passer au peine fin tous ces, toutes ces difficultés, ces faiblesses que nous avons relevées. Mais nous notons que finalement, au nombre des forces, nous reconnaissons tous que la gratuité elle-même, la mise en œuvre, elle est déjà une très bonne chose. Tout le monde l'a appuyé. Alors on va écouter les autres séries hein, avant de revenir à vous pour orienter encore les débats. Alidor, vous êtes avec nous. Apuya Kananga, bonjour Maître Alidor.
Bonjour Monsieur Gilles, bonjour à notre invité Jean Bosco Pona.
Quelle est votre contribution?
Oui, Monsieur Gilles, d'emblée, je me dis que la gratuité de l'enseignement de base, c'est comme toute médaille qui a aussi son revers du côté positif. On peut retenir aujourd'hui qu'il y a un engouement dans les salles de classe et aujourd'hui les enfants qui n'étaient pas à même de fréquenter l'école grâce à la gratuité de l'enseignement sont à même de fréquenter l'école aujourd'hui. C'est un acquis et c'est un aspect positif. Mais du côté négatif, M. J.R. est tel que beaucoup de paramètres n'ont pas été mis en compte en pensant à la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que vous allez vous retrouver un enseignant devant 100 ou plus de 100 élèves. Cet enseignant-là, dans une petite salle de classe, sans banc, lui-même, didactique, quel est le niveau de l'enseignement que nous allons avoir demain, après-demain, M. J.R.? Quels sont les cadres qu'on est en train de former? Donc, c'est comme ça que nous disons, M. J.R., qu'il fallait qu'on prenne en compte ces aspects-là pour que la gratuité de l'enseignement ne soit pas une cause qui va, une fois de plus, tirer vers le bas notre
enseignement.
Niveau de l'enseignement. Mm-hmm. Mais il faut que cette gratuité de l'enseignement aide, par contre, à avoir de bons cadres dans l'avenir qui vont aider le pays. Si du côté, monsieur Gilles, du côté gestion, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, là, parce que beaucoup d'écoles privées ont eu à fermer leurs portes à cause de la gratuité de l'enseignement, ou grâce à la gratuité de l'enseignement qui a fait que beaucoup d'élèves quittent les écoles privées pour les écoles publiques. Mais aujourd'hui, les enseignants qui sont dans les écoles publiques, nombreux sont aussi des non-payés et des nouvelles unités. Mm-hmm. Quand il faut payer, monsieur Gilles, les gestionnaires recourent, comme certains des prédécesseurs l'ont dit, recourent aux membres de famille qui n'étaient pas alignés. Ceux-là, on les paye, mais le vrai enseignant là demeure dans cette situation. Mais un enseignant qui n'a pas de salaire, parce qu'il vivait grâce à la motivation des parents. Aujourd'hui, que cette motivation des parents n'existe plus. Alors, il va faire le bénévolat, monsieur Gilles, lui-même qui a aussi des charges, lui-même qui est appelé aussi à vivre. Comment peut-il, monsieur Gilles, bien transmettre la matière tant que lui-même n'est pas placé dans de bonnes conditions? Donc ce sont là des aspects qu'il faut prendre en compte, identifier les vrais enseignants. Il faut qu'on commence par procéder à l'identification des vrais enseignants, savoir qui n'est pas payé, qui est nouvelle unité, qui est dans telle école, qui est dans telle sous-division, ainsi de suite. Mais la manière dont les choses sont organisées, M. J.R., donc nous nous rendons compte que nous ne sommes pas écartés ou bien nous ne sommes pas éloignés de l'ancien système. Ce sont les mêmes antivaliers que nous avons
décrits
que nous sommes en train de constater encore aujourd'hui et que du côté
donc, aussi si on de la DEF, on ne va pas seulement
chercher le résultat des lois à un moment donné. Il faut créer un cadre permanent de concertation. Ce sont des techniciens. Nous avons des gestionnaires, des ministres qui sont aujourd'hui juristes. On ne peut pas se dire que c'est la politique. On va vous placer un ministre peut-être qui ne connaît rien de l'enseignement. Mais si vous en tant que technicien, il y a un cadre permanent de concertation. À tout moment, vous êtes à même d'échanger avec les gestionnaires.
Donc il faut vraiment le ministre de les savoir-faire n'a rien à voir avec les diplômes. Il faut dissocier les diplômes au savoir-faire. Les diplômes, c'est une présomption d'ailleurs de connaissances. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alidor. Alors, Justin, vous êtes avec nous? Justin? Alors, on prend Pierre Moussafiri. Pierre Moussafiri, vous êtes à Goma. Bonjour, Pierre.
Bonjour, Gilles, bonjour à l'invité Jean Bosco Pona et bonjour à tous les invités de la Radio Capi.
Vous avez la parole, quel est votre avis?
Merci beaucoup de m'avoir associé à ce débat, monsieur Gilles. Tout d'abord, je peux dire que déjà après le lancement de la gratuité de la semaine de base en RDC, nous pouvons dire qu'il y a, sur les aspects positifs, nous pouvons dire que plusieurs enfants ont accédé aux cours. C'est que, par exemple, les parents n'avaient pas les moyens de les scolariser bien avant cette le lancement de cette gratuité de l'enseignement fait par monsieur le président de la République. Mais aussi sur les aspects négatifs, nous pouvons dire que pour le moment, monsieur, nous constatons que plusieurs enfants montent de classe supérieure, montent de classe supérieure, sans toutefois avoir le niveau, à cause de grèves à répétition que nous avons, que les enseignants déclenchent à chaque fois. Mais vous allez voir que si les deux savent combien de jours que l'année scolaire compte, les enfants vont étudier au moins 120 à 154 jours. Est-ce que vous pensez-vous que cette matière perdue, les matières perdues seront récupérées à quel jour? Mm-hmm. Voilà pourquoi nous disons à notre gouvernement, nous invitons à notre gouvernement d'organiser ces états généraux. Nous pensons qu'il faut étudier tous ces points négatifs.
Les états généraux sont organisés par la société civile. Donc, sont organisés par la société civile. Alors, la crainte, ou encore la crainte exprimée, ce que redoutent certains auditeurs, c'est que les représentants des autorités ne soient pas là. Alors, ça risque d'être un coup d'épée dans l'eau.
Et c'est ça le problème, c'est-à-dire, si les représentants des autorités ne sont pas là, et qui va résoudre maintenant ce problème que traversent les enseignants de la RDC, si le gouvernement n'est pas associé dans ces états généraux, on va causer encore un problème, c'est pourquoi nous demandons à notre gouvernement
d'associer
les représentants du gouvernement dans ces états généraux. Parce qu'on ne peut pas trouver les solutions, la société civile elle-même ne peut pas trouver la solution à ce problème que traversent les enseignants. Chaque fois qu'ils entrent en grève, c'est le gouvernement qui doit chercher la solution.
Et vous imaginez. Et nous sommes au mois de juin, c'est pour prévenir, c'est pour éviter la grève qui peut être déclenchée, probable grève, au mois de septembre, comme on est habitué. Merci beaucoup, Pierre Moussafiri, d'avoir appelé de Goma. Voilà, on prend Maître Edmond. Maître Edmond, vous êtes avec nous. Maître Edmond? Allô? On prend Maître Edmond. Maître Edmond, vous êtes avec nous.
Bandaka, oui, Maître Edmond.
Maître Edmond, vous avez la parole.
Oui, bon, Monsieur Gilles, je pense que... D'abord, sur un petit bilan sur la gratuité, je pense qu'il faut qu'on se le dise que les choses ont évolué par rapport à ce qui était avant et que les gens doivent savoir que, vous savez, la gratuité a été lancée pendant que le ministre actuel n'était pas encore là. Et puis, il a hérité et puis il s'est bat pour essayer de voir comment on peut mécaniser les nouvelles unités. Tous ceux qui ont été non payés soient également payés. Et puis, nous constatons aussi dans nos écoles, il y a un engouement terrible. Beaucoup d'enfants qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas eu accès. Et moi qui vous parle, ma mère, c'est une enseignante de Bandaka ici. Quand je fréquente son auditoire, je trouve vraiment qu'il y a un engouement. Et c'est-à-dire que c'est vraiment des avancées positives dans ce secteur. Mais je pense que la question qu'on peut examiner, c'est relative aux états généraux organisés par la société civile. Bon, je pense que d'une part, si la société civile s'organise pour essayer d'évaluer, en tant qu'un groupe de pression, je pense que c'est tout à fait normal d'évaluer si la gratuité a évolué et voir en quelle mesure s'il faut en fait faire des plaidoyers auprès de l'autorité de tutelle. Mais je pense que ces états généraux, en fait, ne luttent pas les autorités, parce qu'en fait, les privés et le secteur civil, qui est comme privé, ne peut pas organiser les états généraux qui engagent le gouvernement. Si c'est le gouvernement, à travers le ministère de l'EPST qui organise, qui invite la société civile, je pense que ça pourrait avoir des implications directes et des solutions directes. Mais dans les cas sous examen, je pense que ce n'est pas mauvais à la société civile de le faire, parce que la société civile, c'est l'interface entre la population, bien sûr, qui est bénéficiée de la gratuité et l'autorité publique. Et je pense qu'à l'issue de ces états généraux, les recommandations et les conclusions qui seront retenues, ça sera sous forme de plaidoyer, les plaidoyers qui peuvent se faire auprès de l'autorité de tutelle. Mais je pense qu'il faut qu'on se le dise, à 100% de la gratuité, plus de 90%, il y a vraiment des avancées positives et c'est une chose à
Oui, mais avant votre arrivée en onde des Radio Capi, il y a vos prédécesseurs qui ont évoqué des problèmes des infrastructures, des problèmes notamment des frais de fonctionnement qui sont maigres, que l'État octroie aux écoles, et également la question des documents de travail soulevés par Peter Mabudi qui nous a appelé de Kinshasa, lui-même enseignant depuis 2 ans, mais qui a pris un dégoût et il a même démissionné.
Oui, mais je pense que la question des infrastructures s'est posée. Dès l'amorçage de systèmes de gratuité, il s'est posé un problème. Il y a eu des gens qui ont multiplié les écoles, il y a des gens qui ont créé les écoles. Et ce problème s'est posé à l'Équateur, à Boende, partout, on a décrété, il y avait plusieurs écoles. Et on a créé les écoles. Je pense que s'il faut maintenir la gratuité avec les écoles conventionnées, avec les écoles officielles qui existaient, je pense que le problème ne pouvait pas se poser. Et vous allez voir qu'avec l'ancien ministre qui a été là, il y a eu beaucoup d'écoles fictives. Et lorsque vous allez dans les fins fonds de nos territoires, de nos villages, vous trouvez qu'il y a des écoles qui n'avaient pas de bancs à l'époque. Mm-hmm. Et je pense que quand le ministre est arrivé, il a essayé de fermer ces écoles, et mm-hmm. ça a créé un tollé, et la mesure a été suspendue, levée. Donc c'est un problème, je pense que pour moi, c'est une question qu'on soit un peu rigide. Faire vraiment un contrôle systématique, comme nous tendons vers la fermeture. Si des écoles qui ne remplissent pas les critères, on les ferme et tous ces enfants seront transférés dans les écoles viables. Je pense que c'est ça la question.
Voilà,
la
merci, question merci beaucoup. Alors on va accorder également la parole rapidement à Justin. Je crois que la liste est améliorée. Justin Galiabia, je crois, c'est ça son nom. Alors Justin, vous avez la parole.
Oui, merci. Monsieur Gien, je salue aussi mon ami Maître Edmond Mokolo.
Vous avez la parole rapidement en une phrase. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour vous?
Oui, merci beaucoup. Par rapport à la thématique du jour, monsieur Gère, la gratuité de l'enseignement, moi je peux dire que c'est mitigé. Pourquoi? Parce que on n'avait pas préparé. La gratuité n'était pas préparée, monsieur Gère.
Merci.
Et en plus, jusque là, nous parlons de gratuité. Gratuité, ça devient un slogan. Mais aussi, monsieur Gère, il y a aussi l'État doit se focaliser dans la gratuité. L'État doit former des meilleurs enseignants. Voilà, quand le président avait dit que les enseignants congolais ne maîtrisent pas aussi leurs matières, ça avait créé un tollé. Il y a beaucoup de bruits qui sont créés pour les enseignants congolais. Mais aussi, monsieur JR, les enseignants de la RTC, les enfants ne parlent pas bien français. Et quelqu'un qui a eu un diplôme d'État, mais ne s'exprime même pas convenablement, monsieur JR. Mais tout ça, c'est le problème de qui? Le problème est à partager. Du côté du parent et aussi du côté des enseignants, même ici du côté des enseignants. Donc les enseignants aussi ne maîtrisent pas leur matière. Ça pousse que le niveau des enseignants, le niveau des enfants, vous voulez dire, soit à la baisse, M. Gier. Et pour terminer, M. Gier, j'aimerais demander que on ait une réforme sur tous les plans, y compris aussi la zone salariale, parce que jusqu'à présent, nous, les enseignants qui sont ici à Bougna et ceux qui sont dans des différents territoires, il y a des différences, il y a des écarts, donc il fallait supprimer cette zone salariale. Merci, bonne journée, monsieur Gier.
Voilà, merci à vous également et bonne journée à vous chez vous. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à cette émission. On revient dans ces studios avec vous, Jean Bosco Pouna, la coalition d'ESC, coalition de la société civile pour la promotion et la protection des droits socio-économiques et culturels qui organise donc sous le patronage de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, pendant 2 jours, à partir de demain donc, les états généraux de la gratuité de l'éducation des bases. Et nous avons écouté la population, je crois que vous avez eu le temps d'en tirer un peu quelques recommandations formulées par cette catégorie qui représente la population dans son ensemble, qui en fait exprime les vœux de la population autour de cette question de la gratuité. Alors qu'est-ce qu'on peut dire avant de clôturer cette émission?
Oui, mais je les remercie tous, en commençant par Justin qui dit qu'on n'avait pas préparé la gratuité.
La préparation, tout
mais,
le monde
non, mais déjà dit, il faut dire que c'est un débat dépassé. Le débat là est dépassé. Aujourd'hui, que ce soit Lidor ou encore Pierre ou Maître Edmond, tout le monde reconnaît des points positifs de la gratuité. C'est que tous ceux qui n'avaient plus le moyen d'aller à l'école sont allés à l'école parce que l'éducation est un droit fondamental. Mais alors, je crois que le leitmotiv ici, ce que nous devons prendre comme résolution, c'est que nous tous, comme société, nous devons consolider et pérenniser la gratuité. Nous devons consolider. On ne peut pas comprendre 2 ans après que nous puissions connaître des reculs. Il y a des problèmes, certes. Une réforme de cette envergure ne peut pas manquer de problèmes. Et donc, 2 ans plus tard, je crois qu'il y a moyen maintenant de continuer, de consolider et de pérenniser. Nous devrons améliorer l'efficacité de cette gratuité. Malheureusement, il y a des obstacles. Et je crois qu'au niveau des états généraux, nous allons revenir sur ces obstacles-là, les problèmes des zones salariales, les problèmes des supports pédagogiques, les financements. Nous allons revenir même sur la prime de gratuité qui est donnée aux uns 30 000, aux autres 200 000. Ce sont des questions qu'on va devoir aborder pourvu que tous les partenaires puissent être là. Nous sommes un groupe de pression, les recommandations seront transmises à qui de droit.
Voilà, Jean Bosco Pouna, vous êtes membre de la coalition d'ESC, coalition de la société civile pour la promotion et la protection des droits socio-économiques et culturels. Et vous l'avez si bien dit, placé les décors déjà, planté les décors par rapport à ces états généraux qui tourneront autour de quatre axes, notamment le cadre juridique de l'éducation et également la question des gestionnaires des écoles, la question des finances à l'interne ou à l'externe et également la question des enseignants qui sont acteurs principaux également dans cette partenariat dans ces partenariats d'éducation. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci à tous les auditeurs qui ont participé de manière religieuse à cette émission. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats. On se retrouve demain dans un autre numéro des Paroles aux auditeurs.